Chapitre 3. Le récit du prêtre. New York. 1. C'était l'alcool. C'est la conclusion à laquelle il était arrivé quand il avait décroché et qu'il avait recouvré sa clarté d'esprit. Ni Dieu, ni Satan, ni quelque obscure bataille psychosexuelle entre sa sainte maman et son saint papa. L'alcool. Point. Et qu'y avait-il de surprenant dans le fait que le whisky se fût emparé de lui? Il était irlandais, prêtre avec ça, à quoi bon lutter? Après son séminaire à Boston, il avait obtenu une paroisse en ville, à Lowell, dans le Massachusetts. Il était très aimé de ses ouailles. Il ne les appelait pas son troupeau, c'était un terme qu'on employait plutôt pour désigner les rats qui infestaient la décharge de la ville. Mais après 7 ans passés à Lowell, il avait commencé à se sentir mal à l'aise. Dans le bureau de Mgr Duggan, l'évêque, il avait décrit ce malaise avec tous les mots à la mode. Anonymat, mal-être urbain, manque croissant d'empathie, perte du lien avec la vie de l'esprit. Avant son rendez-vous, il avait pris une petite goutte aux toilettes, suivie de quelques bonbons à la menthe quand même, pour faire bonne mesure, et il s'était montré particulièrement éloquent. L'éloquence ne découle pas toujours de la croyance, mais elle coule souvent de la bouteille. Et ce n'était pas un menteur. Il croyait réellement ce qu'il avait raconté ce jour-là dans le bureau de Duggan. Mot pour mot. Aussi vrai qu'il croyait en Freud, à l'avenir de la messe en langue vernaculaire, à la noblesse de la guerre contre la pauvreté de Lyndon Johnson et à la stupidité de la guerre au Vietnam. Ils étaient embourbés jusqu'à la taille et ce grand crétin qui voulait persévérer. Il croyait surtout en ses idées, s'il s'agissait bien d'idées, et non de banalités débitées dans les cocktails, parce qu'elles faisaient fureur dans le gratin intellectuel. La conscience sociale est montée de 2 points. Le foyer a perdu 1/4, mais on s'y retrouve sur son investissement de départ. Ensuite, tout s'était simplifié. Ensuite, il avait compris que s'il buvait trop, ce n'était pas parce qu'il se sentait déconnecté de sa vie spirituelle, mais qu'il se sentait déconnecté de sa vie spirituelle parce qu'il buvait trop. On avait envie de protester, de dire que ça ne pouvait pas être simpliste à ce point. Pourtant, ça l'était bel et bien. La voix de Dieu est faible et constante. C'est la voix d'un moineau au milieu du cyclone, comme dit le prophète Isaïe, et grand merci. Il est encore plus difficile d'entendre une petite voix si les 3/4 du temps on est bourré comme un coin. Callahan avait quitté l'Amérique pour le monde de Roland avant la révolution informatique et l'ère du tout jetable, mais il avait largement eu le temps d'entendre un type lors d'une réunion des AA qui disait que si on mettait un trou du cul dans l'avion à San Francisco en direction de la côte Est, c'était le même trou du cul qui allait atterrir à Boston. Avec en général 4 ou 5 verres de plus derrière la cravate, mais ça, c'était plus tard. En 1964, il avait cru en ce qu'il avait pu et plein de gens s'étaient montrés soucieux de l'aider à trouver sa voie. De Lowell, il était parti pour Spofford, dans l'Ohio, dans la banlieue de Dayton. Il y était resté 5 ans, puis il avait de nouveau été pris de bougeotte. De ce fait, il avait refait le coup du grand discours, le genre que pouvait entendre le bureau diocésain, le genre qui vous faisait muter un peu plus bas. Anonymat, perte du lien spirituel, cette fois avec ses paroissiens de la ville. Oui, il l'aimait tous, et il les aimait lui aussi. Pourtant, quelque chose clochait. Et quelque chose clochait, effectivement, surtout dans le bar discret au coin de la rue, où, là aussi, tout le monde l'aimait bien, et dans le meuble où il rangeait ses bouteilles, dans le salon du presbytère. À part à petite dose, l'alcool devient vite toxique, et Callahan s'empoisonnait nuit après nuit. C'était le poison dans son organisme, et non l'état du monde, ou même celui de son âme, qui le faisait sombrer. Les choses avaient-elles toujours été si évidentes? Plus tard, lors d'une autre réunion des AA, il avait entendu un type parler de l'alcoolisme et de la dépendance comme d'un éléphant au milieu du salon, on ne pouvait pas le rater. Callahan n'avait rien dit à l'époque. Il n'en était qu'à ses 90 premiers jours de sobriété, ce qui signifiait qu'on attendait de lui qu'il reste assis là, à se taire. « Retire-toi le coton que tu as dans les oreilles et fourre-le-toi dans la bouche », disaient les vieux de la vieille. « Grand merci. » Mais il aurait pu dire « Si, on peut le rater. » On pouvait rater l'éléphant au milieu du salon, si c'était un éléphant magique, s'il avait, comme l'ombre, le pouvoir d'obscurcir l'esprit des hommes, le pouvoir de vous faire croire dur comme fer que vos problèmes étaient d'ordre mental et spirituel, mais en aucun cas dû à la picole. D'où Jésus, rien que la perte du sommeil paradoxal dû à l'abus d'alcool, avait de quoi vous foutre en l'air dans les grandes largeurs, mais on n'y pensait pas vraiment tant qu'on restait actif. L'alcool transformait le processus de pensée en quelque chose qui ressemblait à ce numéro de cirque quand tous les clowns s'entassent dans la petite voiture. Quand une fois sobre, on regardait en arrière, on était dégoûté par ce qu'on avait pu dire ou faire. Je restais assis dans ce bar à résoudre les problèmes du monde entier et ensuite j'étais incapable de retrouver ma voiture au parking, avait raconté un autre type pendant une réunion. Et nous disons tous grand merci. Quant aux choses qu'on pensait, c'était encore pire. Comment pouvait-on passer la matinée à vomir et l'après-midi à croire qu'on traversait une crise spirituelle? C'était pourtant ce qu'il avait fait, et aussi ce qu'avaient fait ses supérieurs, sans doute parce que bon nombre d'entre eux étaient aussi aux prises avec l'éléphant magique. Callahan avait commencé à penser qu'une église plus petite, une paroisse rurale, lui permettrait de renouer le contact avec Dieu et avec lui-même. C'est ainsi qu'au printemps 1969, il s'était à nouveau retrouvé en Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre du Nord, cette fois-ci. Il avait planté boutique, sacs et bagages, crucifix et chasubles, dans la charmante bourgade de Jerusalem Slot, dans le Maine. C'est là qu'il avait fini par rencontrer le mal à l'état pur, là qu'il l'avait regardé droit dans les yeux, et qu'il avait cédé. 2. Un écrivain est venu me trouver, raconta-t-il. Un dénommé Ben Mears.
Il me semble avoir lu un livre de lui, fit Eddie.
La danse de l'air, ça s'appelait ? C'est l'histoire d'un homme qui se fait pincer pour un meurtre que son frère a commis. Callahan opina du chef.
C'est bien lui. Il y avait aussi un professeur, Matthew Burke, et tous deux croyaient qu'un vampire sévissait à Salem Slot, du genre qui fabrique d'autres vampires.
Pourquoi il en existe d'autres ? Demanda Eddie, en se remémorant la centaine de films qu'il avait vus au Majestic et le millier au moins de bandes dessinées qu'il avait achetées, et parfois même volées, chez Dali.
Oui, et c'est là que je veux en venir, mais peu importe pour l'instant. Il y avait surtout ce garçon. Il y croyait fermement. Il devait avoir l'âge de votre Jake. Ils n'ont pas réussi à me convaincre, du moins pas au début. Mais eux étaient bien convaincus, et il était difficile de ne pas les suivre. Et puis, il faut dire qu'il se passait vraiment quelque chose à Salem. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Des gens qui disparaissaient. Une atmosphère de terreur sur toute la ville. Assis là, au soleil, c'est impossible à décrire. Pourtant, c'était là. Je devais officier aux funérailles d'un autre garçon. Il s'appelait Daniel Glick. Je doute qu'il ait vraiment été la première victime de ce vampire à Salem Slot. Mais je sais qu'il n'a pas été la dernière. C'est en tout cas le premier qu'on a retrouvé mort. Le jour de l'enterrement de Danny Glick, toujours est-il que ma vie a basculé. Et je ne parle plus de mon quart de whisky quotidien non plus. Quelque chose a changé dans ma tête. Je l'ai senti comme un verrou qui tourne. Et bien que je n'ai plus bu une goutte depuis des années, ce verrou est toujours tourné.
Susanna pensa. « Vous êtes allé à Adash, père Callahan ?»
Eddie pensa. « C'est quand t'as viré 19, mon pote.
Ou peut-être bien 99. Ou peut-être les deux, qui sait ?»
Roland se contenta d'écouter. Il avait éradiqué de son esprit toute réflexion. Il n'était plus qu'un parfait récepteur.
L'écrivain, Mears, était tombé amoureux d'une fille de la ville, Susan Norton. Le vampire l'a enlevée. Je pense qu'il l'a fait en partie parce qu'il en a eu l'occasion, mais aussi pour punir Mears d'avoir osé former un groupe, un quartet, pour essayer de le chasser. Nous nous sommes rendus dans la propriété qu'avait achetée le vampire, une ruine appelée Marston House. La chose qui habitait là-bas se faisait appeler Barlow. Callahan sembla réfléchir quelques instants, son regard tourné vers le passé, semblant glisser à travers eux. Il finit par reprendre la parole. Barlow n'était plus là, mais il avait laissé la femme, ainsi qu'une lettre. Elle nous était adressée à tous, mais surtout à moi. Dès la seconde où je l'ai vue, là, allongée sur le sol de la cave de Marston House, j'ai compris qu'ils avaient dit vrai. Le médecin qui nous a accompagnés l'a ausculté et a pris sa tension, histoire d'être certain. Pas de pouls, tension à zéro. Mais quand Ben lui a planté le pieu dans le cœur, elle est revenue à la vie. Le sang a giclé, elle s'est mise à hurler, et ses mains. Je me rappelle l'ombre de ses mains sur le mur. Eddie attrapa la main de Susanna. Ils écoutaient ce récit dans un état second, comme suspendus dans l'horreur, sans savoir quoi croire. Il ne s'agissait pas là d'un train parlant actionné par des circuits informatiques déficients, ni d'hommes et de femmes retournés à l'état sauvage. Cette chose était comparable au démon invisible qui hantait le lieu où ils avaient récupéré Jake, ou bien au gardien de la porte de Dutch Hill. Et dans cette lettre qui vous était adressée, que vous disait ce Barlow ? Demanda Roland. Que ma foi était affaiblie et que j'allais me déliter. Il avait raison, bien entendu. À l'époque, la seule chose en laquelle je croyais, c'était le Bushmills. Seulement, je ne le savais pas. Lui le savait, néanmoins. L'alcool est un vampire, lui aussi. Et peut-être qu'ils se reconnaissent entre eux. Le garçon qui nous accompagnait finit par se convaincre que ses parents étaient les prochains sur la liste du prince des vampires, en guise de vengeance. Ce garçon avait été fait prisonnier, voyez-vous, mais il avait réussi à s'échapper en tuant le complice du vampire, un demi-humain nommé Straker. Roland hocha la tête, se disant intérieurement que ce garçon lui rappelait de plus en plus Jake. « Comment s'appelait-il ? » « Mark Petrie. Je l'ai raccompagné chez lui sans oublier d'emporter le pouvoir considérable offert par les attributs de mon église, la croix, l'étole, l'eau bénite et bien sûr la Bible. Mais j'en étais venu à les considérer surtout comme des symboles, et c'était mon tendon d'Achille. Barlow était chez Petrie. Il tenait ses parents. Puis il a réussi à prendre l'enfant. J'ai brandi ma croix. Elle s'est mise à flamboyer. Il avait mal. Il a hurlé. » Callahan sourit en se remémorant ce cri de souffrance, ce qui glaça le cœur d'Eddie. « Je lui ai dit que s'il faisait du mal à Mark, je le détruirais, et en cet instant, j'en aurais été capable. Et il le savait. Il m'a répondu qu'il ne m'en laisserait pas le temps, qu'il trancherait la gorge du petit avant. Et lui aussi, il en aurait été capable. »
L'impasse, quoi. Murmura Eddie, en se rappelant ce jour au bord de la mer Occidentale où il s'était retrouvé dans une situation étrangement similaire face à Roland. « L'impasse totale, bébé. »«
Et que s'est-il passé ?» demanda Susanna. Le sourire de Callahan s'évanouit. Il se frottait la main droite comme Roland sa hanche, apparemment sans s'en rendre compte. « Le vampire m'a proposé un marché. » Il laissait le gamin partir si je jetais le crucifix que j'avais entre les mains. Nous nous retrouverions face à face, désarmés, sa foi contre la mienne. J'ai accepté. Dieu du ciel, j'ai accepté. Le garçon. 3. Le garçon a disparu comme un tourbillon dans l'eau sombre. Barlow semble grandir. Ses cheveux qu'il porte tirés en arrière à la mode européenne semblent flotter autour de son crâne. Il est vêtu d'un costume sombre et d'une cravate rouge vif, aux nœuds impeccables, et, aux yeux de Callahan, il semble participer de l'obscurité qui l'entoure. Les parents de Mark Petrie sont étendus à ses pieds, le crâne broyé. « Remplis ta part du contrat, chaman. »« Mais pourquoi devrait-il le faire ? Pourquoi ne pas le chasser sans tenir à un match nul pour ce soir ? Mais cette idée a quelque chose de malsain, d'horriblement malsain. Mais il n'arrive pas à voir quoi. Et ces mots fétiches qui l'ont aidé dans ces moments de crise passée semblent devenus totalement inefficaces. Il ne s'agit pas d'anonymat, de manque d'empathie ou du fameux malaise existentiel du XXe siècle. Il s'agit d'un vampire et... » Et sa croix qui rougeoyait furieusement se met soudain à noircir. La peur lui noue l'estomac comme un entrelac de fil électrique brûlant. Barlow s'avance vers lui. Il traverse la cuisine des Petrie et Callahan voit distinctement les crocs de la chose parce que Barlow sourit et c'est du sourire du vainqueur. Callahan recule d'un pas, puis de deux, puis des fesses, il touche le rebord de la table, et la table à son tour heurte le mur, et alors il n'y a plus nulle part où aller. « C'est triste de voir la foi d'un homme échouer, » dit Barlow en tendant le bras. « Et pourquoi n'essaierait-il pas de l'attraper après tout ? La croix que tient Callahan est à présent complètement noire. » Elle n'est plus rien qu'un morceau de plâtre, un bibelot de pacotille acheté par sa mère dans une boutique de souvenirs de Dublin, probablement à prix d'or. Cette force qu'il avait sentie dans tout son bras, comme un voltage spirituel assez puissant pour faire exploser des murs de pierre, cette force a disparu. Barlow la lui prend des mains. Callahan pousse un cri de désespoir, le cri d'un enfant qui comprend tout à coup que le vilain croque-mitaine existe vraiment, qu'il a toujours existé, tapi dans un placard en attendant son heure. Et alors, il entend un son qui va le hanter jusqu'à la fin de ses jours, de New York et des autoroutes occultes de l'Amérique, jusqu'aux réunions de AA de Topeka, où il finira par devenir sobre, jusqu'à son étape ultime à Detroit et à sa vie ici, à Calabrian Sturges. Il se rappellera ce son quand il se retrouvera le front, barré d'une cicatrice, à deux doigts de se faire tuer. Il se le rappellera quand il se fera tuer pour de bon. Ces deux craquements secs, au moment où Barlow brise les bras de la croix, et le bruit mat, insignifiant lorsqu'il en jette les restes par terre. Et il se rappellera aussi la pensée d'un ridicule cosmique qui lui vient au moment où Barlow s'empare de lui. « Mon Dieu, j'ai besoin d'un verre. »
4. Le père regarda Roland, Eddie et Susanna avec l'air d'un homme qui se remémore soudain le moment le plus effroyable de toute son existence.
Chez les alcooliques anonymes, on entend toutes sortes d'adages et de slogans. Il y en a un qui me revient quand je repense à cette nuit-là, quand Barlow m'a attrapé par les épaules.
« Lequel ? » demanda Eddie.
« Prenez garde à ce pourquoi vous priez, » répondit Callahan, « parce que vous pourriez bien l'obtenir. »
« Vous avez eu votre verre, » en conclut Roland.
« Oh oui, » fit Callahan, « j'ai eu mon verre. »
5.
Les mains de Barlow sont puissantes, implacables. Et tandis que Callahan est repoussé en arrière, il comprend soudain ce qui va se passer. Pas la mort. La mort serait une douceur comparée à ça.
« Non, je vous en prie, »
essaie-t-il d'articuler, mais aucun son ne sort de sa bouche, hormis un faible gémissement enroué.
« Maintenant, prêtre, » chuchote le vampire.
Callahan sent qu'on appuie sa bouche contre la chair puante et glacée de la gorge du vampire. Il n'y a ni anonymat, ni dysfonctionnement social, ni implication éthique ou raciale. rien que la piqûre de la mort et une veine ouverte battant sous les assauts du sang mort et infecté de Barlow. Aucun sentiment de deuil existentiel, aucun chagrin postmoderne devant la faillite du système de valeurs américain, pas même le sentiment de culpabilité religio-psychologique de l'homme occidental, rien d'autre que l'effort, tenter de retenir son souffle éternellement, ou de détourner la tête, ou les deux. Il n'y parvient pas. Il tient le coup pendant ce qui lui paraît une éternité, se badigeonnant les joues, le front et le menton de sang, comme si c'était de la peinture. En vain. À la fin, il fait ce que font tous les alcooliques quand l'alcool les tient. Il boit. À quoi bon lutter? Tu es foutu. 6. Le garçon s'en était tiré, c'était déjà ça. Et Barlow m'a relâché. Me tuer n'aurait même pas été drôle. Non, le plus drôle, c'était de me laisser en vie. J'ai erré pendant une heure, peut-être plus, à travers une ville de moins en moins présente. Il y a peu de vampires de type 1, et Dieu soit loué parce qu'un type 1 peut causer un maximum de dégâts en un laps de temps extrêmement restreint. La ville était déjà à moitié infectée, mais j'étais trop aveugle, trop sous le choc pour m'en rendre compte. Et aucun des nouveaux vampires ne m'a approché. Barlow avait apposé sa marque sur moi aussi sûrement que Dieu avait apposé la sienne sur Cain avant de l'envoyer dans le pays de Nod. Par sa montre et son billet, comme vous diriez, Roland. Il y avait une fontaine publique dans la ruelle qui longeait la pharmacie Spencer, le genre de chose qu'aucun ministère de la Santé n'aurait autorisé à peine quelques années plus tard, mais à l'époque il en restait une ou deux dans chaque petite ville. J'ai nettoyé le sang de Barlow de mon visage et de mon cou. J'ai aussi essayé de le retirer de mes cheveux. Et puis je suis rentré à St. Andrews, mon église. J'avais décidé de prier pour obtenir une seconde chance. Non pas le Dieu des théologiens qui croit que tout le sacré et le profane viennent finalement de l'intérieur de nous, mais l'ancien Dieu. Celui qui avait déclaré à Moïse qu'il ne devait pas souffrir de laisser une sorcière en vie, et qui avait transmis à son fils le pouvoir de ressusciter les morts. Une seconde chance, c'est tout ce que je demandais. J'aurais donné ma vie pour ça. Quand je suis arrivé à St. Andrews, je courais presque. Il y avait 3 portes d'entrée, j'ai foncé sur celle du milieu. Quelque part, une voiture a pétaradé et quelqu'un a éclaté de rire. Je me rappelle très distinctement ces sons. Comme s'il marquait la fin de ma vie en tant que prêtre de la Sainte Église romaine catholique.
« Qu'est-ce qui vous est arrivé, Trésor ?» demanda Susanna.
La porte m'a rejeté. Elle avait une poignée en métal, et dès que je l'ai touchée, le feu en a jailli comme un éclair à l'envers. Je me suis retrouvé projeté tout en bas des marches sur le parvis en ciment. Avec ça.
Il leva sa main balafrée. « Et ça ?» demanda Eddie en désignant la cicatrice sur son front.
« Non, c'est venu plus tard. Je me suis ressaisi et j'ai marché encore. Je suis retourné au coin de chez Spencer. Sauf que je suis rentré. Je me suis acheté une bande pour ma main. Et alors que je payais, j'ai aperçu le panneau. Monté à bord du grand chien gris. »
« Il veut dire Greyhounds, mon chou, » fit Susanna à Roland. « C'est une compagnie de bus qui traverse le pays. Son emblème est un lévrier. »
Roland hocha la tête et dessina des moulinets avec son doigt qui signifiait « Continuez. » « Mademoiselle Coogan m'a dit que le prochain bus partait pour New York. Alors je me suis acheté un billet. Elle aurait pu me dire qu'il allait à Jacksonville, ou à Nome, ou encore à Hotburg, ou dans le Dakota du Sud, j'y serais parti tout aussi sec. Tout ce que je voulais, c'était quitter cette ville. Je me moquais de savoir que des gens rencontraient la mort, ou pire encore que la mort. Je me moquais que certains d'entre eux fussent mes amis, d'autres mes paroissiens. Je voulais juste partir. Vous pouvez comprendre cela ?»«
Oui, » dit Roland sans l'ombre d'une hésitation.
« Très bien. »
Callahan le regarda droit dans les yeux
et ce qu'il y vit parut le rassurer quelque peu. Lorsqu'il poursuivit son récit, il avait l'air plus calme.
Loretta Coogan était l'une des vieilles filles de la ville. J'ai dû lui faire peur car elle m'a demandé d'attendre le bus dehors. Je suis sorti. Le bus a fini par arriver. Je suis monté, j'ai tendu mon billet au chauffeur. Il l'a déchiré en deux, il m'en a rendu la moitié et gardé l'autre. Je me suis assis. Le bus a démarré. Nous sommes passés sous le feu clignotant jaune du centre-ville et j'ai su qu'on avait parcouru le premier kilomètre. Le premier kilomètre de la route qui m'a mené ici. Plus tard, vers 4h30 du matin, il faisait toujours nuit dehors. Le bus s'est arrêté à 7.
Hartford, annonce le chauffeur de bus.
On est à Hartford, mon pote. On fait une pause de 20 minutes. Vous voulez aller vous chercher un sandwich ou quelque chose ?
Callahan extirpe tant bien que mal son portefeuille de sa poche avec sa main bandée et manque de le lâcher. Il a dans la bouche le goût de la mort, un goût persistant, farineux, un goût de pomme pourrie. Il lui faut quelque chose pour chasser ce goût, au pire pour le changer. Et si rien n'y fait, essayez au moins de le recouvrir comme on recouvrirait une gouge dans un parquet sous un morceau de moquette bon marché. Il tend un billet de 20 au chauffeur en lui disant « Vous pouvez aller me chercher une bouteille ?»«
Monsieur, on a un règlement. »« Et gardez la monnaie, bien sûr. Une pinte fera l'affaire. » »«
J'ai pas besoin que quelqu'un fasse soif dans mon bus. Dans 2 heures, on sera à New York. Vous trouverez tout ce que vous voulez là-bas. »
Le chauffeur essaie d'esquisser un sourire.
« C'est la ville de tous les plaisirs, vous savez. »
Callahan. Il n'y a plus de père Callahan. L'éclair de feu dans la poignée aura au moins répondu à cette question-là. Ajoute un billet de 10. À présent, c'est $30 qu'il lui tend. Il répète au chauffeur qu'une pinte fera l'affaire et qu'il n'attend pas de monnaie en retour. Cette fois-ci, le chauffeur, qui n'est pas un imbécile, prend l'argent.
« Mais, je vais pas faire le zouave avec moi, » répète-t-il. « J'ai pas besoin que quelqu'un fasse le zouave dans mon bus. »
Callahan hoche la tête. « On ne fait pas le zouave, on est d'accord là-dessus. » Le chauffeur se rend dans la baraque qui fait épicerie-vente d'alcool restauration rapide à l'entrée de Hartford à l'orée du matin sous des projecteurs jaunes. Il y a en Amérique des autoroutes secrètes, des autoroutes qui se cachent. Cet endroit est situé sur l'une des bretelles de ralentissement qui mènent dans le réseau des routes de l'ombre, et Callahan le sait bien. Il le voit à la manière dont les gobelets en polystyrène et les paquets de cigarettes froissés tourbillonnent sur le macadam dans le vent de l'aube naissante. Il l'entend dans ce murmure qui monte du panneau de la pompe à essence, le panneau qui dit « Après le coucher du soleil, on paie d'avance ». Il le voit dans cet adolescent de l'autre côté de la rue, assis sous la véranda à 4h30 du matin, la tête dans ses bras repliés, figure silencieuse de la douleur. Les autoroutes secrètes sont toutes proches et elles murmurent à son oreille.
« Viens, mon vieux, » elles disent. « C'est ici que tu pourras tout oublier, même ce nom qu'on t'a collé comme une pancarte alors que tu étais nu et sans défense. » Un bébé encore souillé du sang de sa mère. On t'a attaché une étiquette autour du cou comme une boîte de conserve à la queue d'un chien. Pas vrai? Mais t'es pas forcé de l'emmener avec toi là-bas. Viens, allez, viens.
Mais il ne va nulle part. Il attend le chauffeur du bus. Et le voilà qui revient avec un millet de Old Dog Cabin dans un sac en papier Kraft. C'est une marque que Callahan connaît bien. Et une bouteille de ce format doit coûter dans les $2.25 dans ce bled, ce qui signifie que le chauffeur vient de gagner un pourboire de $28 plus ou moins.
Pas mal. Mais c'est ça la méthode américaine, pas vrai?
On donne beaucoup pour recevoir peu. Et si le Log Cabin réussit à effacer ce goût monstrueux de sa bouche, ce goût 1000 fois pire que les lancements de la brûlure sur sa main, Alors, ça vaudra jusqu'au dernier cent des $30 déboursés. Mon Dieu, ça vaudrait même un billet de 100.
Pas de bêtises, dit le chauffeur. Si vous commencez à faire le zouave, je vous lâche au beau milieu de la voie express du Bronx. Je jure que je le fais.
À l'arrivée à Port Authority, Don Callahan est sous. Mais il ne fait pas le zouave. Il reste assis, bien gentiment, jusqu'au moment de descendre du bus pour se joindre au flot humain de 6 heures sous la lumière froide des néons. Les camés, les chauffeurs de taxi, les petits cireurs de chaussures, les filles qui sucent pour $10, les garçons habillés en filles qui le font pour 5, les flics qui font tourner leur matraque, les dealers avec leurs sound machines sur l'épaule, les cols bleus fraîchement débarqués du New Jersey. Callahan se joint à eux, sous, mais silencieux. Les flics à matraque ne le remarquent pas plus que ça. L'air de Port Authority sent la cigarette, les manettes de jeu et les gaz d'échappement. Les bus garés grondent. Ici, tout le monde a l'air décalé. Sous les néons, blêmes et froids, ils ont tous l'air morts.
« Non, se dit-il, en passant sous un panneau indiquant vers la rue. Pas mort, justement. Mort vivant. »